Je passe la parole, donc, comme d'habitude, je me répète à chaque cours, mais à la fin donc, du séminaire qui va être donné maintenant, donc, nous pourrons discuter, si vous le voulez bien. Je vais passer la parole à Marc Delcourt. Je suis vraiment très heureux de terminer cet ensemble de cours avec quelqu'un qui est passé dans le domaine industriel et qui a essayé de, enfin avec succès d'ailleurs, hein, puisque Global Bioénergie c'est une belle entreprise, qui a essayé de voilà d'utiliser ces nouveaux concepts de la biologie pour faire quelque chose d'utile et de voilà et qui rapporte, j'espère. Sinon l'entreprise ne fonctionne pas.
Pour l'instant, pas encore.
Bon. Voilà. Et je lui passe la parole. Merci d'être là et de nous raconter comment vous faites.
Alors, merci de cette invitation. Ça va, c'est pas trop fort. Merci de cette invitation. Donc, moi, je vais vous parler aussi de biologie synthétique et d'hydrocarbures fabriqués à partir de ressources renouvelables, mais sous un autre angle. Moi, je vais vous parler de cette activité sous l'angle de l'entreprise. Global Bioenergy, c'est une entreprise qui est jeune, qui a été fondée en 2008 par Philippe Marlière et moi-même. Philippe Marlière, vous le connaissez déjà, puisqu'il était venu vous présenter il y a un an ses travaux scientifiques sur Global Bioenergy en particulier, mais aussi sur plein d'autres choses qui l'emmènent dans différents domaines, de la chimie renouvelable, mais aussi de la pharmacie. Et Philippe Marlière, c'est un scientifique visionnaire et échevelé, qui fait partie des pionniers donc, de ce domaine de la biologie synthétique. Moi, je suis un scientifique aussi, mais moi, je suis un scientifique défroqué, en fait, puisque ça, après une thèse en biologie à la fin des années 90, je me suis tourné vers la création d'entreprises. Donc, je dirige des entreprises dans ce domaine de la biologie industrielle depuis 1998. Global Bioenergy, c'est ma deuxième société. Donc, Philippe Marlière, sur la droite, c'est le concepteur de tout ce que je vais vous raconter. Donc moi, je vais vous le raconter sous un angle très peu scientifique, il y a quelques diapositives scientifiques quand même, mais surtout sur l'angle de comment est-ce qu'on transforme cette science en une entreprise qui, un jour, je l'espère, sera profitable et prendra une place importante dans ce domaine de la transition énergétique, qui est un domaine dont on parle de plus en plus. Alors, les fondamentaux, pourquoi Global Bioenergy? Il y a deux raisons. Pourquoi est-ce qu'il faut faire des carburants et de la chimie différemment de ce qu'on fait aujourd'hui? Alors d'abord parce que la planète chauffe. Alors, il y a eu des débats longtemps, il y a eu des années de controverses, mais aujourd'hui, depuis 2015, il commence à y avoir un peu de basculement des mentalités. C'est-à-dire que vous voyez sur la partie basse du graphique ici les records qui ont été établis, les records de température qui ont été établis ces dernières années. Donc là c'est les mois. Donc vous voyez qu'il y avait 2014-2013 qui avaient battu déjà des records précédents. Mais il n'y avait pas une croissance très rapide des températures. On était plutôt dans un espèce de plateau de température un peu élevé que dans une croissance vraiment majeure. 2015 a tout changé, puisque 2015 est 0,13 degrés au-dessus du précédent record qui était 2014. 0,13 degrés, ça veut dire 13 degrés par siècle. Donc si on continue comme ça, on va avoir une France tropicale dans pas si longtemps que ça, et ce n'est pas forcément souhaitable. Donc 2016, premier mois de 2016, donc ils sont ici, c'est-à-dire encore bien plus haut que 2015. Alors attention, moi je ne veux pas être trop alarmiste sur ce sujet-là. 2015, c'est une année El Niño. Donc El Niño, ça veut dire que la température est un peu plus chaude. Mais même quand on enlève ce paramètre El Niño, on se retrouve quand même avec une température qui est trop élevée. Donc, changement climatique, la température, c'est lié aux gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, c'est principalement le CO2. Et la biologie industrielle, ce qu'elle a à dire là-dedans, c'est quand je consomme un kilo d'essence, ou quand je consomme un kilo de biocarburant, il y a un facteur 3 à 5 dans la quantité de CO2 émis. Alors, ce n'est pas au pot d'échappement que ça se passe. Hein. C'est si on regarde le cycle entier, donc pour raconter cette histoire de façon courte, les énergies fossiles, c'est un voyage à sens unique du sous-sol vers l'atmosphère. en passant par le moteur des voitures. Donc on prend 1 kg de pétrole, on le met dans votre moteur, et ça devient 3,2 kg de CO2. C'est l'équation stoichiométrique, donc c'est la science qui dit ça. Il y a juste à faire les calculs. La biologie industrielle, c'est un cycle. Les plantes captent le CO2 atmosphérique, le transforment en carbohydrates. Ces carbohydrates sont transformés par nos soins en biocarburant. Ça peut être de l'éthanol, ça peut être du biodiesel. Nous, on a une approche spécifique. En tout cas, on convertit les carbohydrates végétaux en biocarburant qui est consommé, qui relargue du CO2, et en fait, la même quantité de CO2 que celle qui, au départ, avait été captée par les plantes. Donc, si on avait un cycle parfait, on aurait zéro production de CO2 par les biocarburants. Malheureusement, rien n'est parfait dans ce bas monde, et donc il y a des frottements à toutes les étapes de la chaîne. Il faut des engrais pour l'agriculture, il faut des moteurs pour le tracteur, il faut transporter les carburants, et donc il faut prendre en compte tous ces paramètres, et on se retrouve, quand on fait les calculs, avec une réduction de 3 à 5 fois la quantité de CO2 par kilo de carburant. C'est la même chose pour les matériaux. Les matériaux, la seule différence, c'est que la consommation n'est pas immédiate. Le plastique de mon ordinateur, il va durer 10 ans, mais il va finir par être brûlé. Donc c'est la même chose pour les matériaux. Donc première raison de la biologie industrielle, lutter, produire moins de CO2 en utilisant les mêmes carburants et les mêmes matériaux que ceux qu'on utilise aujourd'hui. Deuxième raison, quoi qu'on entende à la télévision ces temps-ci, la demande énergétique est en très forte hausse. Qu'on entend la Chine ralentit, alors on ne sait plus trop bien. La réalité, c'est que la demande d'énergie est en très forte hausse, elle vient des pays émergents. Nous, en OCDE, on baisse tranquillement notre demande en énergie, mais dans les pays émergents, il y a une demande qui est très importante. Si on parle du pétrole, la hausse de la demande, c'est environ 1,2 à 1,5% de plus par an, c'est-à-dire un peu plus de 1 million de barils par jour, là où on en consomme aujourd'hui, donc l'an dernier 93, cette année 94. Donc cette demande, elle est très forte, elle s'accroît rapidement, et un jour, les énergies fossiles ne pourront plus répondre à cette demande, il faudra autre chose pour suppléer, et puis peut-être un jour carrément remplacer ce monde des énergies fossiles sur lequel on a construit notre civilisation depuis une centaine d'années. Donc c'est ça les fondamentaux de la biologie industrielle. Ce que disent l'un et l'autre, c'est qu'il nous faut un nouveau mix énergétique qui soit moins intense en carbone. Alors aujourd'hui, ce qui existe, et ce dont on parle beaucoup, c'est l'électricité. Donc l'électricité, c'est l'électricité renouvelable, c'est une énergie qui est déjà mature. Il y a l'hydraulique, donc 20% de l'électricité française vient des barrages, et puis il y a le solaire et l'éolien qui sont en très forte croissance ces dernières années. L'électrique, ça fait bien deux choses. Ça fait bien le domestique, la cuisson et le chauffage, et ça fait bien la voiture urbaine, le transport urbain. À Paris, c'est les blue cars, ailleurs, c'est d'autres approches, mais en tout cas, la voiture courte distance, elle fonctionne bien sur le modèle électrique. Pour la voiture longue distance, en revanche, on se heurte à plusieurs problèmes. Alors, le monde de l'électricité renouvelable pose plein de questions, il y a plein de réponses qui sont apportées, partielles ou complètes. Moi, je voudrais me focaliser sur un seul point, la capacité d'embarquement de l'énergie électrique. L'énergie électrique est associée à des batteries, et ces batteries, elles ont une densité énergétique faible. 1 mégajoule par kilo de batterie, à comparer à 45 mégajoules par kilo pour l'essence, le kérosène ou le diesel. Donc les carburants, les hydrocarbures, ont une densité énergétique extrêmement forte. Il n'y a rien de plus intense en énergie que les hydrocarbures, à part l'hydrogène, mais qui pose des questions spécifiques de sécurité. Et donc, on se retrouve avec un différentiel d'un facteur 45. Alors, si on veut être rigoureux, ce facteur 45, il faut le tempérer d'un facteur 3. Une voiture électrique, un moteur électrique, c'est un meilleur rendement qu'un moteur thermique. Donc, faites-moi confiance, le rapport entre l'électrique et le thermique, ce n'est pas 45, c'est 15. Maintenant, prenons un exemple. On part au ski. 1000 km à faire, Alpes du Sud. 1000 km à faire, prenons une voiture standard, une Clio, une berline Clio, 4 portes, une tonne de voiture. Si on est avec un moteur thermique comme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On met 60 litres dans le réservoir, c'est-à-dire 50 kg, et on a l'autonomie pour y aller. Alors, on peut s'arrêter, hein, on n'est pas obligé d'avoir une autonomie de 1000 km, c'est peut-être un peu excessif, on ne va pas rester 1000 km dans la voiture, on peut s'arrêter, mais on n'a pas envie d'être contraint sur ses arrêts. On ne peut pas s'arrêter 2 heures à midi, on ne peut pas s'arrêter 5 fois. Prenons maintenant la voiture électrique. Donc la voiture électrique, pour faire la même distance, il faut 50 kg x 15, 750 kg. Donc la voiture est plus lourde. Et puis comme elle est plus lourde, elle consomme plus, donc on est dans un cercle vicieux. Et si on fait les calculs jusqu'au bout, on s'aperçoit que pour une tonne de voiture, il faut une tonne de batterie. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, donc il n'y a pas de voiture aujourd'hui qui propose une autonomie aussi importante que la voiture thermique, la voiture à moteur thermique. Donc on entend plein de choses, on entend Tesla Motors dire des voitures à 300, 400 km d'autonomie avec des systèmes de recharge compliqués, nouveaux, qu'il va falloir mettre en place. Nous, ce qu'on dit, c'est que l'avenir du transport automobile longue distance, c'est les biocarburants, les hydrocarbures biocarburants. Et donc, en fait, si on regarde la transition énergétique, j'ai fait un petit préambule qui s'éloignait un peu de mon propos principal, mais si on regarde la transition énergétique d'une façon globale, il y a deux volets. Il y a un volet qui est ce que peut faire l'électrique. Ce que peut faire l'électrique, c'est le domestique et le transport de courte distance. Et puis, il y a ce que ne peut pas faire l'électrique, c'est-à-dire le transport automobile, le transport aérien. Faites-moi confiance, il n'y aura jamais d'avion électrique sérieusement. Des petits avions peut-être, mais pas d'A380 électrique. Et les matériaux. L'électrique, évidemment, ne fait pas de matériaux. Donc nous, c'est ça, Global Bioénergie. On s'occupe de ce deuxième volet de la transition énergétique, transport longue distance, aérien, matériaux. En une phrase, voilà ce qui nous anime. En une phrase, notre mission, c'est contribuer à la transition énergétique et environnementale en amenant au marché des hydrocarbures renouvelables. On peut décliner ça en quatre intérêts. Donc environnemental, donc il s'agit de réduire les émissions de CO2. Énergétique, on en a parlé, préparer l'après-pétrole. Stratégique, pour un pays comme la France ou comme les États-Unis, produire son électricité ou son énergie sur son sol, ça a un intérêt réel. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Aujourd'hui, on est dans un monde plutôt calme en Europe. Les choses peuvent changer. Et puis, un intérêt économique, la vision de la biologie industrielle, c'est des petites entreprises, des petites unités décentralisées, c'est-à-dire présentes en milieu rural. Et donc, ça coche un peu toutes les cases de ce qu'on entend depuis des années. Des emplois non délocalisables, dans des zones qui ne sont pas favorisées, avec des niveaux de qualification divers et variés. Dans une usine, il faut des emplois non qualifiés et il faut aussi quelques emplois qualifiés. Donc, pour nos économies, la biologie industrielle, c'est peut-être important. La France en particulier, qui est la première agriculture d'Europe, a vraiment beaucoup de choses à en attendre. Alors le défi, et alors là je contredis le discours de M. Fontcaff, c'est que les micro-organismes ne produisent pas naturellement d'hydrocarbures. Donc en fait, je précise, hydrocarbures gazeux. Les molécules qu'on vise, nous, ce sont des hydrocarbures gazeux, et puis cette diapositive date peut-être un peu, nous on a commencé avant cette époque florissante qui a vu fleurir ces dernières années des différents travaux sur les hydrocarbures naturels. Mais en tout cas, les hydrocarbures que nous, on vise, les micro-organismes ne les produisent pas et il nous fallait une innovation de rupture. Alors, un petit peu de technologie, et là, je vais marcher sur les mêmes traces que mon prédécesseur. L'idée de la biologie industrielle, c'est de convertir les ressources végétales en produits d'intérêt industriel. Pour ça, on utilise des micro-organismes qu'on a modifiés, c'est-à-dire dans lesquels on a implanté des voies métaboliques innovantes ou réintégrées à partir de différents objets biologiques naturels. Alors peut-être un petit mot sur les ressources, parce qu'on dit, oui, les ressources végétales, et on passe souvent un peu vite. Les ressources végétales, c'est pour nous essentiellement trois choses. C'est le sucre, en Europe notamment. Donc le sucre, c'est la betterave en Europe et la canne à sucre au Brésil. C'est une industrie où il y a en fait deux parties. Il y a une fraction qui est alimentaire et une fraction qui est non alimentaire. Grossièrement, ça s'appelle la mélasse, cette fraction non alimentaire. Donc ce qui se passe dans l'industrie du sucre, c'est européen, c'est un séisme. Donc, depuis les années 60, il y a des quotas. Donc, ces quotas, ils ont été faits pour restreindre la production de façon à augmenter les cours, pour soutenir les agriculteurs qui, sinon, auraient eu des prix de sucre trop bas et n'auraient pas pu vivre de leur exploitation. En 2017, début 2017, les quotas disparaissent. Donc, il ne reste plus qu'une récolte, octobre 2016 jusqu'à janvier 2017, il ne reste plus qu'une récolte sous quota, et derrière, chacun peut produire ce qu'il veut. Et donc, Tereos, qui est connu sous la marque commerciale Béguinset, Cristal Union, c'est le sucre d'Adi, les Allemands, Südzucker, Nordzucker et d'autres, ont tous annoncé qu'ils allaient augmenter leur production de 20%. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce sucre ? Ben, on va essayer de trouver des nouveaux débouchés, parce que les marchés actuels, au niveau alimentaire ou au niveau biocarburant, le sucre, on peut le transformer en éthanol et le mettre dans des biocarburants, mais dans certaines limites seulement, eh bien, ces marchés sont saturés. La deuxième ressource, c'est les céréales. Et en fait, c'est surtout le maïs aux États-Unis. Aux États-Unis, le maïs, c'est le composé agricole principal. Les États-Unis ont basé toute leur industrie de la viande, par exemple, sur le maïs. La viande et les poulets sont alimentés par du maïs. Et puis aussi, leur industrie du sucre. C'est-à-dire le sucre aux États-Unis, c'est de l'amidon de maïs, qui est un polymère de glucose, qu'on découpe en petits morceaux, ça fait du sirop de glucose. C'est avec ça qu'on sucre le Coca-Cola. Bien aujourd'hui, sous un double mouvement, on mange un peu moins de viande et puis on ne veut plus manger de sucre dans ses sodas. Donc plus personne ne boit de coca rouge, tout le monde passe au coca zéro ou à la stevia ou à tout ce qu'on veut, mais pas de sucre. Les Américains se retrouvent avec une demande en maïs qui diminue de 4% par an. Donc les industriels de la transformation du maïs ont des stocks de maïs qui augmentent dans leur arrière-cour et ils ne savent plus trop bien quoi en faire. La biologie industrielle peut leur apporter des solutions. La troisième ressource, c'est la paille et les copeaux de bois. Alors la paille et les copeaux de bois, en fait, ça nous emmène dans un monde particulier, c'est celui de la papeterie. La papeterie, c'est une industrie qui est en déroute complète, moins 6% par an, plus personne ne veut de papier, parce que c'est la révolution numérique. Et eux aussi cherchent des nouveaux débouchés pour leurs copeaux de bois, leurs différentes filières végétales et la biologie industrielle. Et donc là, on parle beaucoup des Scandinaves et des Canadiens. Et eux aussi donc, ont une motivation très forte dans la direction de la biologie industrielle. Donc on utilise ces ressources, on les donne à manger à des bactéries, et ces bactéries les transforment dans notre cas, un composé particulier qui s'appelle l'isobutène. Donc, l'isobutène, c'est une molécule à 4 carbones qui a une double liaison. Alors, la double liaison, elle est nécessaire. La double liaison, c'est le vecteur de la réactivité chimique. Si vous avez une molécule, un alcane, vous ne pouvez pas en faire grand-chose. Vous pouvez le brûler, mais globalement, vous ne pouvez pas en faire grand-chose. Si vous avez un alcène avec une double liaison, vous pouvez le combiner, le dimériser, le trimériser, lui rajouter des choses. Donc, vous pouvez en faire une plateforme chimique. Et l'isobutène, c'est une molécule, c'est une plateforme chimique actuelle. On dérive l'isobutène du pétrole en grande quantité et on en fait plein de belles choses. Dans le domaine des carburants, dans le domaine des matériaux. Donc les carburants, c'est essence et potentiellement kérosène. Les matériaux, c'est les caoutchoucs, les plastiques, les peintures aussi, de la cosmétique, de l'alimentaire. Même l'isobutène, c'est le composé principal des chewing-gums. Une fois polymérisé. Et donc voilà, nous, ce qu'on a fait. Donc on a introduit une voie métabolique artificielle dans des micro-organismes, dans des bactéries Escherichia coli, qui sont bien éprouvées au niveau industriel. Et cette voie métabolique, elle peut se diviser en trois parties. Alors c'est les quelques diapositives de science que je vous avais promises. Trois parties, c'est-à-dire qu'on part du glucose, ou du saccharose de betterave, ou des sucres en C5, qui sont les sucres extraits des déchets de la paille ou des copeaux de bois. Et ce qu'on veut, c'est que ce glucose soit transformé en acétylcoenzyme A, qui est une des molécules cœur du métabolisme. Et puis ensuite, on a une voie métabolique qui passe par l'acétone, puis l'acétone est converti en plusieurs étapes en isobutène. Donc ça ressemble à une réaction chimique qui s'appelle la réaction de Wittig. Alors, si on regarde ces trois tronçons, ils sont en fait très différents dans l'approche scientifique qui a été nécessaire pour les mettre en place. Je commence par le tronçon du milieu, qui est très facile. Donc il y a des bactéries sur Terre qui produisent de l'acétone, donc qui convertissent l'acétylcoenzyme A en acétone. Donc on a été chercher les gènes de ces bactéries, on les a implantées dans Escherichia coli, il a fallu régler un peu les différents paramètres, et on s'est retrouvé avec une souche qui convertissait bien son acétylcoenzyme A en acétone. Je prends ensuite le segment amont. Ce segment amont, il est beaucoup plus difficile. La règle, c'est que chez les bactéries, la glycolyse, qui est la voie royale du métabolisme central, transforme le glucose en deux acétylcoenzymes A, qui ont chacun deux carbones, 1, 2, et en deux CO2. Donc on perd deux molécules de carbone à cette étape-là. Eh bien, nous avons remodifié complètement le métabolisme central des micro-organismes de façon à ce que l'équation ce soit maintenant un glucose, 6 carbones, donne 3 acétylcoenzymes A, c'est-à-dire pas de perte de carbone. En réalité, on en perd un petit peu et notre équation, c'est plutôt un glucose donne 2,7, peut-être 2,8 bientôt, molécules d'acétylcoenzyme A. Donc ça, c'est la réécriture complète du métabolisme central. Ça a demandé des dizaines de manipulations génétiques. Troisième partie, comment est-ce qu'on transforme l'acétone en isobutène ? Et alors, l'isobutène, c'est pas un produit qui existe dans la nature. Et si on regarde d'un point de vue évolutif, on comprend bien pourquoi. Si vous êtes un micro-organisme dans une flaque d'eau, vous avez accès à une quantité limitée de sucre autour de vous. Et votre boulot, c'est de prendre ce sucre et de le transformer en un peu de lipides, un peu de membrane, un peu de protéines, un peu d'ADN, grossir et vous diviser. Vous avez le droit à des composants de stockage. Peut-être d'ailleurs que les hydrocarbures liquides longue chaîne sont des composés de stockage pour organiser votre croissance. Mais globalement, vous n'avez pas le droit de perdre des carbones de façon trop importante. Or, l'isobutène, c'est un gaz. Donc si... Imaginez que vous êtes une bactérie avec une voie métabolique vers l'isobutène dans la nature. Vous allez prendre votre glucose, vous allez le transformer en isobutène que vous n'allez pas pouvoir tenir, qui va se volatiliser. Vous avez volatilisé une partie de vos carbones. L'évolution ne vous le pardonnera pas. Vous allez vous faire balayer du grand arbre de la vie. Donc si on regarde par la fenêtre, on voit pas de micro-organismes qui produisent de l'isobutène, à quelques exceptions très marginales avec très petits niveaux, et des voies métaboliques biscornues qui ne paraissaient pas un bon point de départ pour notre histoire. Alors nous, il a fallu qu'on invente une succession de réactions enzymatiques qui n'existaient pas, c'est-à-dire vraiment des réactions enzymatiques qui n'existaient pas et des intermédiaires métaboliques qui sont absents sur Terre. Donc c'est mon partenaire, Philippe Marlière, qui a eu l'idée, donc après un grand nombre d'essais, de dessiner une voie métabolique en particulier qui paraissait prometteuse en termes de bilan carbone, de bilan énergétique, mais qui passait par des activités enzymatiques inédites et par des intermédiaires chimiques qui n'existaient pas. Donc cette voie, je vous décris juste la dernière réaction. Donc la dernière réaction, c'est celle de droite. Donc elle concerne c'est la déshydratation et la décarboxylation d'un composé qui s'appelle HIV. C'est pas très joyeusement choisi comme nom. Donc hydroxyisovalérate. Et donc il s'agit de déshydrater et de décarboxyler cette réaction. Il n'y a pas d'enzyme qui fait ça dans la nature. Ce composé, donc, il existe dans la nature, mais il y a un intermédiaire réactionnel qui n'existe pas dans la nature. Il a fallu qu'on travaille avec cet intermédiaire réactionnel. Et bien donc on a été prendre des enzymes d'une famille qui s'appelle la mévalonate 5-diphosphate décarboxylase. Et ces enzymes décarboxylent ces composés. On s'aperçoit que la partie gauche de la molécule, c'est exactement cette même molécule. Donc en fait, par proximité de substrat, on se disait qu'on avait une chance d'adapter ces enzymes-là à l'utilisation de ces substrats. Alors ici, ils paraissent bien analogues, ces substrats. En réalité, si on regarde leur représentation chimique réelle, il y a ces 70% de la masse de la molécule est contenue ici, donc c'est un substrat qui est trois fois plus petit, et puis il y a aussi des charges électriques donc un substrat qui est réduit au carbone réactionnel et qui n'a plus de charge électrique, est quand même très très éloigné dans sa réactivité par rapport à ces molécules. Donc on a beaucoup cherché avant de trouver une enzyme qui faisait un tout petit peu cette réaction-là. Et puis après, par ingénierie des enzymes, c'est-à-dire en combinant la génération de multiples variants et puis le criblage en utilisant un système à haut débit, système d'évolution dirigée, en fait, où on crible des milliers de mutants. Alors ici, la particularité dans notre cas, c'était qu'il fallait détecter ces mutants pour leur capacité à produire de l'isobutène, c'est-à-dire un gaz. Donc il fallait de la chromatographie gazeuse à haut débit. Ça n'existait pas. Donc il a fallu qu'on robotise de la chromatographie gazeuse. Et aujourd'hui, on a une plateforme qui fait 10 000 tests par jour et qui, chaque jour, donc, permet de tester des nouvelles souches qui ont des caractéristiques améliorées. Puis vous voyez que sur ces mutants, on se retrouve avec des mutants qui n'ont pas gagné d'activité par rapport à leurs parents génétiques, des mutants qui ont tout cassé, qui n'ont plus d'activité. Donc ça, ne rien faire ou tout casser, c'est assez facile. En revanche, avoir des mutants qui ont une activité augmentée, c'est quand même largement plus difficile. Alors ça nous a animés pendant plusieurs années, et puis on s'est retrouvé à la fin avec, sur chacun des segments de cette voie métabolique artificielle, des enzymes qui marchaient bien, et donc la capacité d'intégrer toute cette voie métabolique dans des souches et de leur faire produire de l'isobutène à partir de sucre. Je reviens sur l'isobutène. Donc aujourd'hui, l'isobutène, c'est une des grandes molécules plateformes de la pétrochimie. C'est produit par ce qui s'appelle le vapocraquage. Vapocraquage, si je reprends mon trajet vers le ski, quand vous passez Lyon, vous avez la raffinerie de Fezin, vous avez des grandes colonnes sur la droite, ce sont des vapocraqueurs. Et c'est des produits qui prennent du pétrole comme entrée et puis chauffent ce pétrole dans des conditions plus ou moins stringentes qu'on peut régler. Et ça casse les molécules de pétrole en petits morceaux. Ça fait de l'éthylène qui a 2 carbones, du propylène qui a 3 carbones, et puis 2 molécules à 4 carbones, principalement l'isobutène et le butadiène. Alors l'isobutène, donc 15 millions de tonnes, ça veut dire un marché existant compris entre 15 et 30 milliards de dollars, selon les fluctuations du marché. Et on en fait globalement 3 choses, de l'essence, du kérosène, alors aujourd'hui c'est pas comme ça qu'on fait le kérosène, mais on pourrait le faire à partir d'isobutène. Et puis des matériaux, alors pour vous préciser un peu de quels matériaux il s'agit, ce n'est pas tous les matériaux, c'est le caoutchouc butyl. Le caoutchouc butyl, c'est le caoutchouc de la chambre à air. Donc c'est le seul caoutchouc étanche au gaz. C'est-à-dire que vous avez l'extérieur du pneu qui doit être bien robuste et l'intérieur du pneu il doit être étanche au gaz. La chambre à air aujourd'hui, elle est collée sur l'intérieur du pneu. Mais c'est aussi le caoutchouc butyl, c'est aussi le caoutchouc des balles, ou le caoutchouc de certains joints. Donc on en trouve au quotidien dans différents environnements. À partir de l'isobutène, on fait aussi différents plastiques. Alors normalement, le joint qui est autour des fenêtres, par exemple, c'est du polyisobutène. Ici, on est dans une vénérable maison. Je ne sais pas s'il y a du polyisobutène ici. On en fait le verre organique, c'est-à-dire le plexiglas, qui est un plastique particulier. On en fait des peintures. Donc, les peintures acryliques, par exemple, sont en partie faites à partir d'isobutène. Et puis, on en fait plein d'autres choses. On en fait de la cosmétique. Dans la cosmétique, par exemple, un dérivé d'isobutène sert à contrôler ce qui s'appelle le playtime. Je trouve que c'est assez joli comme concept. C'est le temps de durcissement des crèmes. Donc, quand vous avez une crème, vous voulez qu'elle durcisse pas tout de suite, parce que vous voulez pouvoir l'étaler, mais vous voulez qu'elle durcisse à un moment, parce que sinon, vous allez rester luisant pendant un certain temps. Donc le playtime, c'est contrôlé par l'isobutène. Donc bref, pas de vie sans isobutène, c'est pour ça qu'on a choisi, nous, cette molécule, comme premier terrain de jeu. Alors le procédé qu'on a aujourd'hui, donc on a une bactérie qui convertit le sucre qu'on lui donne en isobutène. On a des cibles de rendement et de productivité pour que ça devienne un vrai procédé industriel, et on est pas très loin de ces cibles. On a annoncé il y a un an qu'on avait dépassé 70% de notre objectif de rendement. Aujourd'hui, on est bien plus haut. C'est-à-dire que ce n'est plus un procédé qui marche un peu dans des conditions atypiques. C'est vraiment en train de devenir un objet industriel à part entière. Alors ce procédé, il est en fait en deux étapes. Vous avez une étape de fermentation. Ça, ce n'est pas nos installations. Vous avez une étape de fermentation, c'est les fermenteurs industriels. Vous avez une étape de fermentation qui, dans laquelle on a le sucre qui arrive. Il est transformé en isobutène et puis l'isobutène se volatilise directement dans le ciel du réacteur et il est évacué par un évent. Le fait que cette fermentation aboutisse à un gaz a une valeur particulière. En fait, on est les premiers à faire de la fermentation vers un gaz. Et on s'aperçoit, c'était théorique dans nos slides, dans nos diapositives il y a 7 ou 8 ans, mais on s'aperçoit maintenant concrètement qu'on a deux avantages à faire de la fermentation gazeuse. D'abord, on échappe à tous les problèmes de toxicité. Le produit, il finit par s'accumuler dans le fermenteur lorsque c'est un liquide et il finit par tuer les micro-organismes qu'il produise. L'exemple le plus naturel pour s'en convaincre, c'est le vin. Fermentation du vin, le point de toxicité, il est connu, c'est 13%. Donc, votre fermentation va jusqu'à 13% et elle s'arrête là. Prenez le sauterne, par exemple. Le sauterne reste très sucré à la fin de la fermentation parce que la fermentation s'est arrêtée. Si elle avait continué jusqu'au bout, on aurait du whisky. Donc, on aurait du 40% d'alcool et plus de sucre. Donc, quand on fait un gaz, on n'a plus de problème de toxicité. Le produit ne s'accumule pas, il s'évacue en temps de vol. Et ça ouvre, en fait, la possibilité d'aller vers de la fermentation en continu. Ce qui est un vieux rêve de biologiste industriel. Deuxième avantage, quand il sort par les vents, il vient accompagné d'air, de CO2 et d'un peu de vapeur d'eau. Et pas grand-chose d'autre. C'est un environnement très, très, très simple. Et donc, quand il va falloir le purifier, le monter jusqu'à un taux de pureté élevé, on ne va pas avoir des efforts importants à faire. C'est très différent de purifier un gaz dans cet environnement simple par rapport à purifier un liquide dans l'environnement du bouillon de culture de la fermentation, qui est très complexe et très variable. Donc on se retrouve avec un flux de gaz qui est très simple à gérer et qui va donc dans une colonne de fermentation qui est empruntée à la pétrochimie, qui est un peu réarticulée par nos soins, et on atteint de l'isobutène à haute pureté, c'est-à-dire plus de 99,7% de pureté. C'est ce qu'il faut pour notamment toutes les applications chimiques. Alors sur cette diapositive, je vais vous raconter l'histoire de Global Bioenergy. Donc Philippe Marlière et moi-même, on a uni nos destins en 2008. Et notre première mission, ça a été de trouver de l'argent pour transformer les idées qu'il avait. On va faire de l'isobutène et d'autres molécules et on va faire des biocarburants, de la vraie essence, du vrai kérosène, des vrais matériaux, les mêmes produits que ceux qu'on produit aujourd'hui à partir de pétrole. Ben nous, on va les faire à partir de ressources renouvelables. Donc on a trouvé du capital risque qui nous a confié 3,2 millions d'euros pour transformer ces idées en preuve de concept. Ça a marché. En 18 mois, on avait un prototype, c'était ça, petit fermenteur, 1 litre dans un laboratoire qu'on avait installé sur la génopôle d'Evry, donc à 30 km au sud de Paris. Et donc on avait notre fermenteur avec nos bactéries qui avaient toute la voie métabolique intégrée et quand on leur mettait du sucre, elles produisaient un tout petit peu d'isobutène, juste suffisamment pour être détecté par nos chromatographes gazeux. Il était temps de relever de l'argent pour développer le procédé, pour en faire de ce fait de laboratoire, pour en faire un véritable procédé avec une perspective industrielle. Donc il s'agissait de relever de l'argent, on avait une proposition, comme ça avait bien marché, on avait été invité dans plein de conférences, on était bien visible, on avait une proposition d'un capital risqueur américain qui nous proposait 10 millions de dollars pour la phase suivante. Finalement, on a préféré faire une introduction en bourse de la société. Donc, on a introduit la boîte en bourse très tôt, dès 2011 en fait, et on a levé 11 millions d'euros pour développer le procédé à l'échelle du laboratoire. Donc, d'une certaine façon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a proposé au fonds institutionnel de la Place de Paris et aussi aux particuliers de France et de Navarre de faire du capital risque avec nous et de participer aux joies et aux peines de Global Bioenergy. Alors sur cette phase, qui a duré deux bonnes années, on a eu encore un certain nombre de joies, et notamment celle d'arriver à mettre le procédé, à le rendre vraiment efficace. On a produit nos premiers kilos d'isobutène. Donc c'est un gaz inflammable, l'isobutène, Donc, c'est à peu près le même profil de risque que le gaz de ville. Donc, ça ne se manipule pas quand même avec, avec trop de décontraction. Donc, notre laboratoire, c'était déjà... il commençait à prendre une... Il commençait à prendre l'apparence un peu bunkérisée qu'il a aujourd'hui. Et puis, en 2013, il a fallu qu'on passe à l'étape suivante. Donc, on avait acquis une certaine réputation industrielle, mais ça restait quand même dans le laboratoire. Ce fermenteur, ici, il ne fait que 42 litres, il est haut comme ça. Et c'est avec lui qu'on a fait nos premiers kilos. Donc on a levé de l'argent de nouveau, on a fait un tour de table pour sortir du laboratoire et construire un pilote qu'on ne pouvait plus mettre dans nos laboratoires mais qui devait être donc sur un site industriel. Ça a été celui de Pomacle, qui est au nord de Reims, qui est le site industriel de Cristal Union. C'est le Cristal Union, le sucre d'Adi. C'est le plus gros site agro-industriel d'Europe. Puis un démonstrateur, et ce démonstrateur, on a choisi un site en Allemagne sur le site de la raffinerie de Leuna, qui est la grande raffinerie de l'ancienne Allemagne de l'Est. Et donc, nous voilà donc en 2013 partis pour faire le dessin industriel, puis la construction de ce pilote. Ce pilote, il marche aujourd'hui, il tourne en routine. À l'heure où on se parle, il est en train de produire de l'isobutène. Notre échelle, aujourd'hui, c'est la centaine de kilos. Le démonstrateur, il est en construction, en fin de construction. Je vous montrerai une ou deux images. Oui, voilà, je reviens sur le pilote. Donc, ce pilote, il fait 3,50 m de haut. C'est un fermenteur d'un demi-mètre cube. Et puis, il nous permet de fournir des échantillons d'isobutène avec des niveaux de pureté variables. Donc, c'est des grandes bouteilles comme ça, là, qui peuvent accueillir jusqu'à 50 kg et qu'on va envoyer à différents industriels qui sont intéressés par tester ce matériel dans la perspective d'en acquérir de grandes quantités le jour où... où notre procédé sera exploité à grande échelle. Donc aujourd'hui, on est dans cette phase. On a envoyé de l'isobutène à Arkema avec une application peinture. On a envoyé de l'isobutène à Audi après l'avoir transformé en essence, donc le constructeur automobile Audi avec qui on collabore depuis 2011 maintenant. Et puis on a envoyé de l'isobutène aux industriels du gaz domestique, donc Primagaz, Butagaz. L'isobutène, ça les intéresse bien de faire des bouteilles de gaz renouvelables à l'avenir. Et puis, on a aujourd'hui de nombreux industriels qui s'intéressent à nous et qui nous demandent des lots pour tests. Démonstrateur, donc le pilote, c'est un peu l'extrapolation de notre laboratoire. Le démonstrateur, c'est une usine modèle réduit. Donc, il est conçu, ce démonstrateur, pour être exactement calé sur les approches qu'on va utiliser dans l'usine. Et l'usine, on commence à en parler. Donc, on a créé une joint venture, donc une co-entreprise avec Cristal Union, dont je vous parlais tout à l'heure, numéro 2 du sucre en France, qui voit arriver la fin des quotas avec intérêt et qui se dit il va falloir des nouveaux débouchés pour mon sucre basse qualité, mélasse, et qui a misé sur nous. Pareil, depuis un certain nombre d'années, il nous pousse dans nos efforts. Et aujourd'hui, donc, ça se matérialise par ce projet de première usine qui devrait le voir le jour à horizon 2018. Alors, je m'aperçois que j'ai pas mal débordé. Donc, je vais accélérer un peu sur la fin. Donc, voilà notre pilote avec tout son environnement. On a été bien aidé par l'État pour monter ce pilote. On a eu un financement d'investissement d'avenir. Et puis aujourd'hui, donc, on a atteint un certain nombre de résultats. Ici, vous voyez un petit tombstone en plexiglas avec le premier échantillon d'essence, donc de la vraie essence produite à partir de végétaux. Notre unité de démonstration, donc, elle est basée à Leuna. Donc, Leuna, c'est une gigantesque raffinerie qui était la plus vétuste d'Europe et qui est maintenant la plus moderne. Alors, par quel miracle ? En fait, c'était la grande raffinerie d'Allemagne de l'Est et elle a été rachetée par Total dans les années 90, qui a tout rasé, sauf une unité, et qui a tout reconstruit. Et donc, c'est la plus récente des raffineries d'Europe. Et donc, elle s'est construite, ces raffineries, non seulement sur le thème de la pétrochimie, mais aussi de l'innovation dans différents domaines, dont la biologie industrielle. Et il y a un bâtiment là-bas qui est particulièrement accueillant pour notre démonstrateur. Donc, démonstrateur, capacité 100 tonnes par an. Donc là, ça commence de nouveau à être, même si c'est petit à l'échelle de l'exploitation industrielle. Notre première usine commerciale, IBN One, c'est 50 000 tonnes. Notre démonstrateur, 100 tonnes, ça reste petit. Mais 100 tonnes d'hydrocarbures gazeux à maîtriser, c'est quand même, il faut quand même une démarche industrielle. Et nous, microbiologistes, donc la société, elle est microbiocentrique au départ. On n'était pas du tout en capacité de mener à bien ces travaux. Et c'est pour ça qu'on s'est adjoint des services assez tôt, dès 2010, d'un grand monsieur du génie chimique, donc l'ancien directeur technique de Dupont de Nemours, donc un Américain. Et c'est lui qui pilote toute cette activité de démonstration. Donc on a confié l'ingénierie à l'INDE. L'INDE, c'est le air liquide allemand. Et puis, donc là, le démonstrateur est en construction. Alors, quand on dit « mon démonstrateur est en construction », dans notre domaine, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont des choses en construction, mais la première pierre n'est toujours pas posée. Nous, on a déjà dépensé plus de 90% des capitaux. Donc ça, c'est l'unité centrale, donc le fermenteur, qui est ici aussi. Derrière, c'est la cuve à glucose, qui doit être bien maîtrisée pour que le glucose ne cristallise pas dedans. Ici, vous avez l'unité de stérilisation. Ici, vous avez plein de fûts. Et un seul de ces fûts, c'est la taille de notre pilote de Pomacle. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment un gain d'échelle. Donc, il nous reste encore un peu de travail. Donc, en mai prochain, il y a l'unité de purification qui va arriver du toit, comme ça, d'un bloc, qui va se poser ici. Et puis, on va devoir faire tout le piping, c'est-à-dire il y a 2,5 km de tuyaux à souder. Il y a une automatisation importante sur une unité comme ça. En fait, tout ça, c'est un peu des objets connectés. Donc, il faut qu'ils se parlent entre eux. S'il y a des incidents, on envoie le gaz à la torchère ou pas du tout. Enfin, tout ça, c'est contrôlé, évidemment, par des logiciels complexes. Le commissioning, c'est en fait le contrôle de toutes les étapes de l'équipement, c'est-à-dire toutes les valves, tout ça, ça doit être bien contrôlé avant de démarrer. Il faut qu'on ait un coup de tampon d'un institut allemand qui s'appelle TUV, et ensuite on est parti pour notre premier run qui devrait avoir lieu dès l'automne cette année. Donc premier run, première tonne, c'est notre objectif pour cette année. Bon, à quoi ça sert? Ça sert à avoir plus d'une validation technique à l'échelle supérieure. Ça sert à produire des lots qui sont de taille compatible avec des vrais tests fonctionnels. Parce que quand on envoie des kilos à un industriel, bon, il peut regarder ce qu'il y a dans le kilo, mais il ne peut pas en faire grand-chose. Quand on envoie des tonnes, je prends un exemple, l'ANXES, qui est le nouveau nom de Bayer Polymère, un gros groupe industriel, c'est le principal producteur de caoutchouc en Europe. Donc l'ANXES, c'est le premier producteur de caoutchouc butyl aussi, à partir d'isobutène. Ils ont des grosses unités, et ils aimeraient bien tester un peu de produit, peut-être, un jour. Et il faut faire un test fonctionnel, c'est-à-dire qu'il faut faire un test de polymérisation pour être sûr que le produit ne contient pas d'impuretés, même d'impuretés à très faible niveau, qu'on ne verrait pas en chimie analytique. Il faut être certain que ce produit fonctionne. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une démarche d'établissement de liens avec des industriels pour leur convoyer des lots d'isobutène. Et puis, sur un point de vue plus business, notre unité de Leuna, donc allemande, ça va être en fait notre boutique d'ingénierie. C'est eux nous, on est les microbiologistes en France, et eux, ça va être les ingénieurs qui vont nous aider à designer les futures usines. Alors, une usine, telle qu'on la voit, c'est trois choses. Donc, c'est une licence de notre technologie. La licence, elle porte sur tous les brevets qu'on a pu déposer, et aussi sur les souches. Et puis enfin, sur tout le génie chimique qui a été, tout le design industriel qui est réuni dans ce qui s'appelle un process book, donc c'est un gros paquet de documents qui dit tout ce qu'il faut savoir pour construire une usine. Donc ça, c'est ce que nous, on offre aux industriels. Et puis eux, il faut encore qu'ils se débrouillent avec un contrat d'approvisionnement et des contrats commerciaux. Pour que l'écosystème d'une usine fonctionne, il faut qu'il y ait tout ça. Et c'est compliqué à monter. Parce qu'il y a une histoire de poulet d'œuf là-dedans. Tant qu'on n'a pas d'usine, on ne peut pas aller voir trop les clients, puisqu'on va leur dire quoi. Et tant qu'on n'a pas de clients, bah, les gens nous disent « Mais vous êtes sûr que ça sert à quelque chose, votre truc ?» Donc c'est difficile de faire financer une usine tant qu'on n'a pas les clients, et c'est difficile d'avoir les clients quand on n'a pas l'usine. Donc tout ça, bah, ça demande du... Il n'y a rien de spécial, hein. C'est une aventure industrielle, comme il y a de nombreuses aventures industrielles qui ont lieu aujourd'hui en France et ailleurs, et qui ont toute cette question de poulet d'œuf dont il faut trouver la sortie ou l'entrée. Donc voilà cette première usine donc, qui va être installée en France à horizon 2018. Donc alors, pour résumer, notre recherche et développement, elle est à Évry. Notre pilote, il est à Pomacle, au nord de Reims. Notre démonstrateur est en Allemagne, à Leuna. Et là, on revient à Pomacle. Et c'est sur ce site de Pomacle, qui est le grand site depuis Crissel Union, qu'on va construire cette usine. Aujourd'hui, c'est une vue conceptuelle. Donc, sur ce parc industriel, ici, vous avez une sucrerie. Un flux de sucre basse qualité, de sucre résiduaire, va arriver dans cette unité. 8 fermenteurs de 407 m3 remplis de bactéries, nos bactéries. Ces bactéries vont convertir le sucre en isobutène et on va se retrouver avec un flux de sucre, un flux d'isobutène qui aura une concentration comprise entre 6 et 10% dans de l'air, de CO2, de la vapeur d'eau qui va sortir de cette unité. Ce flux va aller dans une petite unité de purification dont il va ressortir à 99,8%, une petite unité d'aiguillage, et puis on pourra envoyer l'isobutène haute pureté soit dans des containers de stockage. Donc ça, c'est des containers de stockage de GPL, rien d'innovant. On peut les acheter sur catalogue. Soit l'isobutène haute pureté pour aller vers une unité de fabrication d'essence, et puis on se retrouvera à la sortie avec de la vraie essence. Donc ça, pareil, c'est une technologie très simple qui existe depuis de nombreuses années. Et on va se retrouver avec de l'essence, la vraie essence, qu'on peut mélanger sans limite de proportion à l'essence pétrolière, mais produite à partir de végétaux. Le modèle d'affaires, je passe rapidement. Le calendrier, ben, il y a plusieurs étapes. Là, on est à la fin de la phase A. Phase A, c'est l'ingénierie conceptuelle. Alors, le petit schéma, il est quand même très, très conceptuel. Il y a quand même beaucoup mieux. Il y a le plan du site avec toutes les unités, une idée des coûts qui est maintenant précise à 10% près. Puis il va falloir qu'on finance l'ingénierie, puis la construction de l'usine pour un démarrage fin 2018. Ce qu'on voudrait, nous, c'est être à l'heure pour la récolte 2018-2019. Une question qu'on nous pose tout le temps, c'est à quel prix du baril est-ce que votre unité va être compétitive? Alors la réponse, évidemment, c'est ça dépend. Donc ça dépend du prix du sucre, déjà. Donc ici, vous avez le prix du baril, et ici, vous avez le prix du sucre. Le prix du sucre, basse qualité, il varie entre 250 et 350 dollars la tonne. Là, il est poussé gentiment vers le bas par la proximité de la fin des quotas. Mais estimons qu'il est à 300 dollars le baril. Je vous demande de vous concentrer sur cette ligne-là qui définit la profitabilité dans les applications chimie. C'est-à-dire sur le schéma ici, c'est tout ce qui se passe dans l'isobutène haute pureté qu'on va vendre comme ça aux industriels qui vont, eux, le transformer en carburant, en caoutchouc, en plastique, en peinture, en cosmétique. Donc on voit que cette ligne-là qui définit la profitabilité du procédé, il nous faut 80 dollars le baril il nous faut un prix de pétrole à 80 dollars le baril. Alors ça, c'est... Donc 80 dollars, ça paraît aujourd'hui un peu élevé, mais c'est quand même la valeur moyenne de ces 5 dernières années. Ça paraît pas impossible du tout. Puis il faut aussi noter que ça, cette ligne-là, elle est fixée en estimant que le prix de l'isobutène biosourcé est identique au prix de l'isobutène pétrolier. Ce qui n'est probablement pas le cas. Les industriels, certains nous disent ouais, « Moi, je suis prêt à vous l'acheter plus cher pour pouvoir dire « Mon chewing-gum est biosourcé, mon pneu est bon pour la planète. » Et donc, il y a en fait un premium sur les produits verts qui fait que cette ligne-là, elle doit se déplacer un peu. Mais comme on ne sait pas trop, on a préféré la garder là. Probablement qu'elle est plutôt ici, cette ligne, et qu'avec 60 dollars le baril, on pourrait se débrouiller déjà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les carburants? Donc, dans les carburants, on est en concurrence frontale avec le pétrole. Ce n'est pas le cas dans la chimie, puisqu'on est en concurrence frontale avec l'isobutène haute pureté, qui vaut beaucoup plus cher que le pétrole. Mais dans les carburants, un litre d'essence, ça vaut un litre de pétrole plus 5 centimes. Le prix de base, je parle, si on oublie les taxes. Et donc là, la concurrence est plus rude. Et on s'aperçoit qu'il nous faut un prix du baril à 135 dollars. Donc là, déjà, on se dit qu'il va falloir que la Terre tourne quand même un certain nombre de fois avant qu'on puisse vraiment tirer profit de ce procédé. Alors c'est vrai plus ou moins. C'est vrai en Europe, où le prix de sucre est à 300. C'est moins vrai aux États-Unis, où le prix de sucre est à 200. Donc à 200, il nous faut un prix de un baril à 100 dollars. Voilà, c'est pas impossible. Certains en parlent pour déjà 2017. Nous, c'est fin 2018 que ça nous intéresse, le prix du baril. Et puis, il y a surtout, dans les carburants, une grande niche de marché qui est réglementée. Cette niche de marché, elle est, en fait, d'une certaine façon, subventionnée par les États. Alors, c'est une subvention un peu particulière, c'est une subvention sous forme d'amende. Si vous êtes, par exemple, la filiale carburant d'un grand distributeur, par exemple, la filiale carburant de Auchan, eh bien, vous devez mettre 7% de carburant dans toutes vos essences sous vos diesels. Si vous n'arrivez pas à ce 7%, 7% en contenu énergétique, ça veut dire 10% en volume pour l'éthanol. Si vous n'arrivez pas à ce 7%, vous allez payer 1500 euros d'amende, une formule un peu complexe, mais c'est environ 1500 euros, par tonne de carburant qui aurait dû être un biocarburant et qui n'est pas un biocarburant. Et donc au final, il y a 150 millions d'euros d'amende qui sont payés par les distributeurs de carburant. Et nous, on apporte une solution à ça. Pourquoi est-ce que les distributeurs n'arrivent pas à ce 7%? C'est parce que l'éthanol pose des contraintes. On ne peut pas le mélanger au-dessus d'un certain seuil. On peut le mélanger que donc, le 10, c'est le plafond. Donc le 10, c'est 10% volume, 7% en contenu énergétique. Si tout le monde roulait à le 10, ça irait. Mais tout le monde ne roule pas à le 10 parce que les gens voient bien ce qu'ils ont à perdre, la corrosion dans leur moteur, et ne voient pas trop ce qu'ils ont gagné, quelques centimes par plein. Donc le 10 n'a qu'une part de marché relative, environ un tiers de l'essence en France. Et donc il y a une difficulté des distributeurs à atteindre ce plafond. Et bien nous, on arrive avec une solution. Nous, on amène de la vraie essence qu'on peut mélanger sans limite de proportion. Et ce qu'on dit aux distributeurs, c'est on vous vend cette vraie essence, ça vous efface votre amende, on partage l'effacement de l'amende. Et ça nous ramène cette ligne ici, à une ligne ici, qui dit qu'on serait profitable des 40 dollars le baril sur ces marchés un peu restreints des biocarburants. Alors je vais passer assez vite maintenant. Qu'est-ce qu'on va trouver comme autre client? Les sucriers en Europe, les amidoniers aux États-Unis, on en a parlé, la Scandinavie, plein de papetiers malheureux, les chimistes et ceux qui sont classifiés comme les détenteurs de marques, donc les Coca-Cola, les Nike, tout ce monde-là a envie de faire des produits renouvelables et eux sont prêts à le payer plus cher que leur équivalent pétrolier. Les distributeurs de carburant, je viens d'en parler, ils doivent augmenter leur taux d'incorporation. Bon, on a des objectifs pour 2016, une analyse économique sur les États-Unis qui dit qu'il y a encore une histoire de points de profitabilité et ça dit que nos usines, elles seraient, si on fait de la rétro-analyse, elles seraient profitables sur l'essentiel des dernières années, même en 2015, qui était pourtant associé à un pétrole très bas, mais aussi à un prix de sucre très bas. Les marchés, il y a un peu de redite là-dedans, donc je vais passer vite. Là, on parle des marchés sur les matériaux. Ici, on parle de l'essence. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a très peu de concurrence sur cette histoire d'essence biosourcée. On a juste une approche compétitive aux États-Unis avec une autre molécule qui permet de passer de 10% à 16% de biocarburant dans l'essence, mais pas comme nous, d'aller jusqu'à du biocarburant pur. Et je voulais m'attarder un peu sur l'accord qu'on a avec le groupe automobile Audi sur ce sujet de l'essence. Donc je reprends, en introduction, je vous avais dit que l'électrique longue distance, ça posait quand même des problèmes. Et effectivement, l'électrique longue distance, il y a un problème d'embarquement de l'électricité qui ne progresse pas tellement, on reste limité. Et certains, Audi notamment, selon notre analyse, ne voient pas trop l'électrique longue distance s'imposer dans les prochaines années. Ce qu'ils voient, ce qu'ils misent, ce sur quoi ils misent, c'est le biocarburant à outrance. Alors, avec eux, on est en train de mettre un système particulier qui est basé sur un système de compensation, un peu comme ce qui existe dans le domaine de l'électrique. Alors, comment ça marche? Vous achetez une Audi, voiture, et on vous dit, vous allez pouvoir rouler avec 100% de biocarburant. Alors, très bien, c'est quelque chose de très particulier. Et cette particularité, c'est d'une certaine façon ça que vous achetez. Mais vous n'avez pas envie d'avoir des contraintes. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie d'avoir l'obligation d'aller à certaines pompes qui sont du biocarburant pur et d'être limité dans vos choix de remplissage de carburant. Mais alors justement, non. Vous pouvez aller n'importe où dans n'importe quelle pompe, chez Intermarché, chez Total, vous mettez 53 litres d'essence dans votre voiture et vous refermez le réservoir et votre voiture envoie un signal au siège de lit qui va prendre connaissance que telle voiture a acheté 53 litres d'essence tel jour. Audi va produire 53 litres de bio-essence dans son usine ou dans l'usine d'un sous-traitant sous son contrôle. Donc Audi va produire l'équivalent de l'essence que vous avez achetée en bio-essence, en essence biosourcée. Et cette essence va être mise dans un dépôt, elle va être consommée par des milliers d'anonymes mélangés dans le flux d'essence pétrolière. Indirectement, c'est vous qui avez consommé cette bio-essence. Indirectement, parce que c'est votre acte d'achat qui a déclenché la production de cette essence. Et donc, comment ça marche maintenant au niveau économique tout ça? Un biocarburant, aujourd'hui, ça coûte un peu plus cher qu'un carburant fossile. Donc, qui paye? Qui va payer ce surcoût? Et en fait, l'ardoise va être divisée en trois. Une partie, vous, puisque vous avez une volonté de participer à la transition énergétique et vous affichez un militantisme environnemental, ça peut être vous qui acceptez de prendre une partie de ce surcoût. Ça peut être Audi aussi, qui peut se dire, ben oui, mais moi j'ai un argument commercial, j'ai des nouveaux clients, je suis différencié, je peux vendre mes voitures plus chères ou je peux en vendre plus au même prix, et donc ça vaut bien quelque chose. Et puis ça peut aussi être les pouvoirs publics. De la même façon qu'il y a des pénalités sur les distributeurs pour le carburant, il y a aussi des pénalités pour les constructeurs automobiles sur leur capacité, sur les propriétés de leurs voitures. Les grosses voitures qui polluent plus sont aujourd'hui plus taxées que les petites voitures qui polluent moins. Et donc, le fait de dire « Oui, mais ma voiture, c'est une grosse voiture, mais elle marche au biocarburant », comment est-ce que ça s'est traité par les pouvoirs publics? Il y a des débats là-dessus, mais il y a une partie de l'équation économique qui va être résolue ici. L'isobutène, ça a la perspective de faire du biokérosène. Biokérosène, aujourd'hui, ça n'existe pas. Et donc, nous, on représente une des cinq options qui existent aujourd'hui de faire du biokérosène. À suivre. Aujourd'hui, c'est un germe, une graine. Peut-être que je reviendrai vous parler ici dans quelques années et que ce germe aura poussé. Qu'est-ce qu'on fait en recherche et développement? Alors, je vous ai parlé essentiellement de notre procédé isobutène. On travaille sur deux axes. Diversifier les ressources. On essaye d'accéder à des ressources de meilleur en meilleur marché. Donc, sucre, céréales, on en a parlé. Les déchets agricoles et forestiers, on en a parlé. Il y a une génération aussi, ce qui s'appelle la troisième génération de ressources, concerne les déchets industriels, c'est-à-dire le gaz de sortie des aciéries, une collaboration scientifique sur ce sujet, et puis pourquoi pas un jour le CO2 atmosphérique. Donc, les ressources. Une partie de notre recherche, c'est refaire le coup sur d'autres molécules, d'autres grandes molécules de la pétrochimie. Alors, un programme comme l'isobutène, nous, ça nous a occupé déjà 8 ans. Ça a déjà coûté environ 50 millions d'euros. Il en reste encore un morceau à faire. Donc, un programme, on ne peut pas multiplier les programmes comme ça ad nauseum. Donc nous, on est focalisé sur trois programmes et par ordre d'avancement, c'est isobutène, butadiène, propylène. Les ressources, Évry, Pomacle, Loina, retour à Pomacle. À Évry, on est 55 personnes avec des plateformes d'ingénierie des enzymes, des micro-organismes et une grosse plateforme de fermentation. On est une équipe qui a une particularité, c'est d'être très senior. Nous, on n'a pas sombré dans un des vices français qui consiste à dire on va faire du jeunisme, on va prendre des petits jeunes, ils vont être motivés et ils vont être pleins d'énergie, ça va être bien. C'est bien, les petits jeunes, on en a plein, ils sont pleins d'énergie et de tonus, mais on a aussi quelques quinquagénaires et quelques sexagénaires qui nous apportent leur expérience et leur talent. Donc, première chose, c'est une équipe qui est senior et puis qui est trinationale. Tout le monde dit on est internationaux, nous on est trinationaux, on est franco-germano-américains. Donc sur ces 10, vous avez 2 Allemands, 2 Américains, 1 Russe et 5 Français. conseil d'administration, je vais vous passer ça rapidement. Et puis, c'est ma dernière diapo sur qu'est-ce qui va nous arriver. Ben, on a un certain nombre d'objectifs. On a une posture aujourd'hui qui a beaucoup évolué par rapport à celle qu'on avait il y a deux ans. Il y a deux ans, on était une société de R&D. Aujourd'hui, on a un crédit industriel qui est croissant, qui s'est d'ailleurs pas tellement bien exprimé parce que notre domaine de la biologie industrielle a subi un vent de face extrêmement fort depuis le 1er septembre 2014. Donc le prix du baril de pétrole qui a baissé a causé des dommages à toutes les sociétés de biologie industrielle, dont nous. Alors, on a quand même, nous, gardé le cap, avancé dans la tourmente, mais enfin, on est un bateau dans la tempête. On commence à voir sur ce monde du pétrole un horizon plus dégagé. Et puis, on voit aussi que les ressources végétales, qui sont l'autre équation de la balance, l'autre plateau de la balance, elles aussi baissent, et donc que tout ça se rééquilibre gentiment. Donc, par rapport à il y a deux ans, on a un crédit industriel bien supérieur. Et puis, ce qui va nous arriver dans ces prochains mois, c'est la matérialisation de cette première usine avec Cristal Union, on l'espère, l'émergence d'un premier cas concret d'usine aux États-Unis et pourquoi pas d'une autre usine en Scandinavie dans le domaine de la papeterie, et puis des nouveaux accords industriels sur les différents programmes qui nous animent, Nîmes, Butadienne et Propylène. Je vous remercie pour votre attention.